Très bien, bien mesdames, messieurs, bonsoir. Bonsoir, merci d'être présents aussi nombreux à cette séance du conseil municipal de Bédouin. Je constate que les SMS et autres Facebook font leur office. Et donc je vous remercie de cette présence, sachant que nombre d'entre vous sont venus des communes voisines. Eh bien, c'est intéressant aussi que de savoir que les débats de Bédouin donc, nous intéressent tout notre voisinage. Alors donc, c'est la séance du lundi 23 mai. Avant que de commencer les débats, je ferai état d'une part des différentes procurations qui ont été données. Dominique Rouillère a donné procuration à Pierre Collin, Jeanne Trévilly à Béatrice Roux, Vincent Pouillon à Patrick Campon, Gilberte Lévy-Constant à Gilles Bernard, Christiane Mahler à Patrick Grossetti et Blandine Rasselet à moi-même. Je demanderai à Madame Bresse d'assurer le secrétariat de séance. Je vous en remercie. Nous allons donc commencer, comme d'habitude, par l'approbation du PV du 4 avril qui a été transmis, donc le 14 avril est affiché le même jour. Y a-t-il des observations particulières ? Bien. Je le mets donc au voix. Qui est pour ? On comptera bien sûr toutes les procurations. Madame Bresse, faites votre office. Je pense que c'est l'unanimité. Je vous en remercie. Nous allons donc commencer par le point alors numéro 1 que j'ai inversé. Hein, c'est-à-dire, on va commencer par parler de l'enregistrement audio des séances du conseil municipal. Donc je prie ceux qui ont les documents qui leur ont été transmis de s'y référer. Je vais donc vous donner lecture de ce projet de délibération que je soumettrai ensuite à votre vote. Donc la loi administration territoriale de la République du 6 février 1992 a prévu l'obligation pour les communes de plus de 3500 habitants de se doter d'un règlement intérieur et laisser aux communes de taille démographique moins importante la liberté d'apprécier l'opportunité d'établir un cadre et des règles de fonctionnement interne dans le respect des dispositions législatives et réglementaires existantes. L'article 21-21-18 du Code général des collectivités territoriales pose le principe de publicité des séances du conseil municipal. Aussi, les délibérations doivent faire l'objet d'un compte rendu affiché dans les 8 jours suivant la séance. Article loi 21-21-25 du Code général des collectivités territoriales. Ce document succinct n'a pas vocation à retranscrire l'intégralité des débats. Le procès-verbal rédigé par le secrétaire de séance est soumis à l'approbation des conseillers municipaux lors de la séance suivante. Il a vocation à établir et conserver les faits et décisions des séances. Aucune exigence réglementaire n'est imposée quant à sa forme et son contenu. La jurisprudence admet que compte rendu et procès-verbal soient confondus en un seul document. Par souci de transparence et nonobstant le pouvoir de police de l'Assemblée, qui m'est conféré par l'article 21-21-16 du CGCT, je vous propose qu'il soit procédé à l'enregistrement audio des séances disponibles et téléchargeables sur le site internet de la commune. Le seul compte rendu des séances restera soumis à l'approbation des élus, bien entendu. La loi NOTRe portant nouvelle organisation du territoire territorial de la République, promulguée le 7 août 2015, pose comme principe l'obligation prochaine pour toutes les communes de la publication du compte rendu des séances sur le site internet de la commune. Donc, vu les dispositions du CGCT, considérant l'absence de règlement intérieur, considérant l'opportunité de recueillir aux enregistrements audio des séances, il est demandé au conseil municipal d'accepter la mise en ligne sur le site internet de la commune de l'enregistrement audio des séances du conseil municipal, de dire que cet enregistrement se substitue à une retranscription formelle des débats et de se prononcer au début de chaque séance sur la base du seul compte rendu des décisions du conseil municipal précédente. Voici donc la délibération que je soumets à votre approbation. en sachant que nous avions PNC la dernière fois, cet essai s'avère concluant sur le plan technique, donc nous pouvons tout à fait, valablement et même allant au-delà de ce qui nous est imposé par la loi, mettre ce document sur le site de la commune, donc dans un délai très bref, bien entendu. Y a-t-il des questions là-dessus ?
Oui, j'ai une question. Ça va rester combien de temps sur le site internet de la commune ?
Donc la durée est légale qui est prévue, sachant que de toute façon qui doit être une durée d'un an, mais sachant que de toute façon on stockera ces délibérations là autant que nécessaire.
Non, c'est pour savoir si on n'a plus de délits papier. On a quand même la délit papier.
Ben, les délits papier, donc c'est ce qui est dit dans cet enregistrement, c'est-à-dire on fera le compte rendu des décisions telles qu'il vous est distribué à ce jour. L'avantage de l'enregistrement audio qui sera stocké sur le site de la commune, c'est qu'au mot près, on pourra savoir précisément qui a dit quoi et quand.
C'est très bien. C'était promis depuis 2 ans.
Eh bien, vous voyez, je fais partie des gens qui tiennent leurs promesses, monsieur Bernard. Je vous remercie de le souligner.
Merci pour le monsieur.
Donc, y a-t-il des oppositions ?
J'ai une question.
Oui, pardon.
Également. Concernant le projet, le règlement intérieur, est-ce qu'il y a un projet par rapport à cela ou c'est uniquement...
À ce jour, donc, il n'y a pas, vous l'avez entendu, de nécessité, d'obligation pour une commune de moins de 3 500 habitants d'avoir un règlement intérieur. Donc, pour ma part, je n'envisage pas...
D'accord, c'est uniquement cette phase d'enregistrement qui est prévue, il n'y a pas de règlement
tout à
intérieur.
Fait. Non, et qui va au-delà, et on est bien d'accord, oui. Des obligations légales.
Tout à fait.
Bien, des oppositions, ce sera plus simple, des abstentions. Je vous remercie pour cette unanimité.
Et ça démarre à partir de quand ?
Là.
Ouais, c'est parti.
Ça même au commercial. Hein. Ah, là, début de séance. La dernière fois, l'essai technique que nous avions effectué a permis de voir que c'était concluant et ce qui aurait été dommageable. Le point numéro 2, consultation du conseil municipal en vue de la poursuite du processus de labellisation du parc naturel régional du Mont Ventoux. Par courrier du 26 avril 2016, Monsieur Christian Estrosi, président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, a saisi Monsieur le maire de Bédouin, beaucoup d'autres maires d'ailleurs, d'une demande de consultation de son conseil municipal portant sur le projet de parc naturel régional du Mont Ventoux. Considérant que l'initiative de création d'un PNR est une compétence régionale, considérant que la mission de préfiguration a été créée en juin 2011 dans le cadre du SMAEF pour 39 communes, dont Bédouin et 5 intercommunalités, alors que le travail de diagnostic et d'élaboration de l'avant-projet de charte engagé depuis juin 2014 a été délibéré favorablement par l'Assemblée délibérante du SMAEF et de la région à l'automne 2015, mais n'a pas été transmis aux instances nationales pour y obtenir la labellisation de la part du Conseil national de la protection de la nature et de la Fédération des PNR de France, le Conseil régional a souhaité recueillir l'avis des communes concernées avant de décider de la poursuite ou non de cette procédure. Dans cette même correspondance, M. le Président du Conseil régional PACA précise qu'à défaut d'avoir délibéré avant le 8 juin 2016 sur la question « Le Conseil est-il favorable ou non à la poursuite du processus de labellisation du parc naturel régional du Ventoux ?» l'avis sera réputé défavorable. Vu le Code général des collectivités territoriales, où il est exposé de M. le maire, il est demandé au Conseil municipal d'apporter une réponse à la question suivante. Le Conseil est-il favorable ou non à la poursuite du processus de labellisation du parc naturel régional du Mont Ventoux ? Telle est donc la question stricte que je vous pose. Êtes-vous favorable ou non à la poursuite du processus de labellisation du parc naturel régional du Mont Ventoux ? Y a-t-il des questions, des interventions, Monsieur Constant ?
Oui, on vous a adressé un courrier en recommandé, donc, oui. Demandant par rapport à cette question, donc un référendum, nous avons... Sur la réponse que vous avez apportée, on savait très bien qu'il n'était pas demandé un référendum de la part de M. Estrosi. Par contre, nous, on pensait fort justement que le moment était venu pour la population, donc étant donné que l'avant-projet de charte, grosso grosso modo, représente 90% ou 95% de la charte finale, que la population soit consultée à ce moment-là, vu les sommes engagées, hein, à ce jour, vu les sommes qui restent engagées, vu la région qui parle de désengagement de sa part, du questionnement, la question, on l'avait très bien compris, c'était bien ça, et nous, on pense fort légitimement que la population doit être consultée un certain moment, et on pensait que c'était le bon moment. C'est pas l'objet de votre réponse qu'on avait faite.
Mais monsieur Bossin, oui. Je ne vous empêche pas de penser, loin de là, et d'avoir des désirs, d'avoir des avis. Voilà. Aujourd'hui, je suis saisi d'une demande du président du conseil régional, bon, vous en avez suivi les péripéties, dont la question est claire, la question est simple. Aujourd'hui, il n'est pas question de savoir s'il doit y avoir ou non un référendum à propos du projet de parc naturel régional. Il est question de savoir s'il y a une poursuite d'études. Et donc, c'est en fonction de cette décision, en fonction du résultat de cette consultation, que le conseil régional, et puisque vous le savez, vous l'avez dit fort justement, on ne va pas se lancer dans une bataille de chiffres, c'est pas la peine, donc le conseil régional décidera ou non de poursuivre. Donc plutôt que de se lancer dans de vaines querelles, plutôt que de tirer des plans sur la comète, d'autant que vous devez le savoir précisément, si vous avez participé à l'élaboration du projet de charte, de nombreux domaines restent encore inexplorés et donc très flous, ne serait-ce que le problème de gouvernance. Ce serait très certainement mal joué que de se prononcer sur quelque chose dont on ne connaît pas le contenu, mais je le répète, ce n'est pas l'objet de la question. La question que l'on nous pose ce soir, c'est celle du président du conseil régional, donc à laquelle je vous demande de répondre, sans lancer un énième débat qui aura tout lieu de se tenir si le projet va plus loin.
Énième débat, pour l'instant, on n'a pas trop eu l'occasion d'en discuter au niveau du conseil municipal. Je pense que c'est une occasion d'aborder quand même certains points qui n'ont jamais été abordés à ce jour. Énième débat, c'est pour ça que je pense qu'il est important, tout un chacun, hein, l'ensemble des élus, de savoir un petit peu, d'échanger dessus, sur ce projet. Quand. Parce qu'on ne peut pas dire qu'à ce jour, on a eu beaucoup d'échanges là-dessus, tous ensemble. Hein. Moi, je serais curieux de savoir l'avis de tout un chacun par rapport à ça, et non uniquement le mien ou celui de M. le maire. Je pense que c'est important pour tout le monde, pour le conseil municipal, mais également pour les administrés, de savoir quelle est la position de tout un chacun par rapport à ce projet. Nous, c'était clair. Hein, concernant la campagne, pour vous, c'était clair aussi. J'espère que ce jour, ça l'est encore. Et je pense qu'un échange à ce sujet serait constructif et intéressant à tous les niveaux.
Écoutez, moi, tirer des plans sur la comète, sur quelque chose dont on n'a pas une certitude, moi je fonctionne avec de l'écrit. Chacun, c'est quand même la base.
Nous aussi.
Donc aujourd'hui, aussi. Les supputations des uns des autres, les grandes déclarations fracassantes, je veux dire, ne font pas office d'autorité ni de direction. Donc aujourd'hui, je ne vais pas entamer ce débat, et donc vous le savez très bien. Ce serait un débat stérile, ce serait un débat tronqué, ce serait incomplet. Donc la seule question que je vous pose, c'est celle qui est à l'ordre du jour. Et ensuite, eh bien, en fonction de l'évolution, on verra ce qu'il convient de faire. En supposant ce que vous devez souhaiter de vos voeux les plus chers, que le projet n'aille pas au terme de cette consultation, quel serait l'intérêt de mener un débat pendant 2 heures au sein de cette assemblée ?
2 heures, c'est pas la peine.
En argumentant sur quoi on n'en sait strictement rien, parce que quand même, il faut que je vous dise, moi quand j'entends « je ne suis pas informé sur la charte » ou autre, un petit détail, ce n'est pas au niveau des mairies. Il y a un syndicat de préfiguration auquel vous avez été invité à participer à de nombreuses réunions. Il y a eu 900 personnes qui se sont exprimées. Il y a eu des commissions thématiques. Donc de là en est sorti un document, je vous le répète, qui n'est pas un document complet, mais ça c'est tout à fait dans le cadre de la procédure. C'est tout à fait normal que des domaines tels que la gouvernance, telle que le financement, tel que le projet à 3 ans qui fait partie du fonctionnement des PNR ne soit pas défini, hein, puisqu'on attend, donc vous le savez, ce retour de la fédération donc, des parcs et du CNPN. Donc, tirer des plans sur la comète, ça ne m'intéresse pas. Hein. Alors, donc, moi, ce que je vous propose ce soir, je pense que...
Moi, j'ai une question.
Poser une question, on restera dans ce cadre.
Mais ça, c'est sûr. Mais par contre, bon, nous, notre position, tout le monde la connaît. On a donné nos explications. Tout le monde la connaît aussi. Vous êtes 18 autour de cette table. Aujourd'hui, il n'y a pas tout le monde. On connaît ta position, mais les autres personnes, je ne les ai jamais entendues s'exprimer sur le sujet. Et pour cause, pendant 2 ans, nous n'avons jamais eu la moindre réunion sur le sujet du parc. Il s'en est parlé pendant 5 minutes au sein d'un conseil municipal et c'est nous qui avons mis la question sur la table. Donc moi, j'aimerais connaître l'avis de tout le monde là autour de la table.
Avec les éléments qu'il y a à ce jour.
Dans la charte qui fait 200 pages, j'aimerais savoir ce que vous avez écrit.
Gilles, s'il te plaît.
Oui, merci.
En général, dans un conseil municipal, on vote pour, contre ou abstention sur une question qui nous est posée. C'est bien ce que rappelait M. Le
Maire. S'il ne faut pas qu'il y ait de débat,
c'est ce que vient de rappeler M. Le Maire. Tu as dit, on le sait, qu'on connaît votre position, qui est une position systématique, disons, contre le PAC. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas été débattu entre les élus. On n'a pas forcément à débattre en public avant le vote. Vous verrez les résultats du vote. C'est tout. C'est ça, la seule question qui est à l'ordre du jour et qui nous est officiellement posée. On ne demande pas de faire un exposé sur les raisons pour lesquelles on est pour ou contre.
Mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas été débattu entre nous.
Il ne faut pas dire qu'il y a eu des échanges.
Moi, j'aimerais savoir si tout le monde autour de la table est bien au courant de ce que c'est un parc et ce que ça va engendrer dans l'avenir. C'est ça le problème. Après, chacun prend ses responsabilités. Voilà. Alors, certains connaissent tous les tenants et les aboutissants d'un projet comme ça. Mais je pense que je ne suis pas certain que tout le monde soit bien au courant. Voilà, c'est tout.
Il y a eu des échanges.
À un moment donné, je veux dire, et c'est quand même grave que vous disiez ceci en tant qu'élu. Il vous appartient de vous imprégner des sujets qui intéressent la commune. Vous ne l'avez pas fait.
Nous, on peut nous poser des questions sur le parc, on pourra répondre.
Si les réponses sont du niveau de celles qui ont été données dans le dernier tract, où on dit qu'un parc, ça revient entre 1,7 million ou 1,8 million par habitant, je préfère rester complètement inculpé et ignare plutôt que d'avoir des renseignements de ce niveau. Entre nous, je pense qu'il y a une copie et ça fait mauvais genre. Hein. Voilà. Alors donc, cela étant... La question ne se pose pas aujourd'hui en tant que choix, et dans toutes les communes, les 39 communes dans les 5 intercommunalités, la question donc est donc de savoir est-ce qu'il y a une poursuite de ce processus, et s'il y a une poursuite de ce processus, une fois qu'on sera en possession de tous les éléments, vous le savez, il y a une procédure qui est mise en place, bon, vous avez des enquêtes publiques, il y aura des retours, etc., etc., parce que ne croyez quand même pas non plus que s'il y a une majorité ou quoi que ce soit, le parc il va être opérationnel au 1er août. Et dans le meilleur des cas, si ça se fait dans 2 ans et avant la fin du
mandat,
oui, je dis dans le meilleur des cas, ça se fera. Donc aujourd'hui, c'est prématuré, donc je vais clore le débat. Je vous demande de vous exprimer. Qui est favorable à la poursuite du processus de labellisation du parc naturel régional du Mont Ventoux ? Donc qui est favorable ? Je vous demande de vous exprimer en prenant en compte les... Je vous remercie. On vote à 18. Qui s'abstient ? Qui est contre ? 5. Je vous remercie.
Et il ne faut pas oublier quand même que dans la profession de foi.
Bien. Acquisition foncière. Acquisition foncière, je donne la parole à M. Petit.
Conformément aux orientations du PADD, la municipalité poursuit son programme d'acquisition foncière permettant à terme à la commune de Bédouin de réaliser les équipements nécessaires à son développement. Ainsi, il est proposé à l'acquisition à l'amiable des parcelles situées des prés de la Maille, actuellement classées en zone A du PLU à hauteur de 5 € le mètre carré, étant précisé que la commune prendra également à sa charge les frais d'acte afférents à toutes les acquisitions et chargera à mettre en outre notaire à Bédouin de la rédaction des actes. Un accord de principe de M. Bernard Boublin, propriétaire des parcelles cadastrées section F 1024, surface cadastrale de 2140 m² et F 1031, surface cadastrale de 1565 m², a été réceptionné en mairie en date du 13 mai 2016 pour un montant de 19 875 euros. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis des domaines en date du 27 novembre 2014 portant à 1,40 la valeur vénale des mètres carrés des parcelles classées en zone agricole du PLU, vu la délibération numéro 2016-031 du 24 mars 2016 portant approbation du budget primitif 2016 pour la commune de Bédouin, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition des parcelles susmentionnées quartier près de la Maille au prix de 5 euros le mètre carré, soit 19 875 euros, d'autoriser M. le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer l'acte de vente et toute pièce afférente à cette acquisition, de charger maître Arnoux, notaire à Bédouin, de la rédaction de l'acte.
Très bien, je vous précise aussi pour compléter ceci que nous sommes donc en contact avec M. Boulbin qui va nous céder une parcelle de chez notre pied pour envisager une compensation par le biais d'une prolongation d'acte de droit de cavage pour la parcelle qu'il exploite à Madeleine. Ça, on en reparlera ultérieurement, donc c'est un acte maire. Bien, y a-t-il des oppositions?
Oui, comme d'habitude, parce que vous achetez encore des terrains qui sont estimés par les domaines à 1,40 € et on les paie 5 euros le mètre. Donc on fait de la surenchère sur les terres agricoles. Ce que nous dénonçons depuis que vous avez commencé à ce genre d'opération pour faire soi-disant une zone artisanale. Donc nous trouvons ça déplorable, donc nous votons contre.
Eh bien, moi, juste deux faits. Donc, ça n'ira pas beaucoup plus loin. Quand vous me parlez de terres agricoles et quand vous connaissez l'usage qu'en est fait actuellement, je reste un peu sceptique. Et le deuxième point, s'il n'y a pas un acte volontaire et volontariste de la part des collectivités pour mettre à disposition de leurs artisans des terrains où ils pourront s'étendre, si on préfère que les artisans aillent s'installer dans les zones de Malocène, de Carpentras ou d'ailleurs, eh bien, oui. Mais à un moment donné, effectivement, il faut faire des sacrifices. Et à des moments donnés,
Le sacrifice, voilà. C'est avec l'argent de la collectivité.
C'est avec l'argent de la collectivité, mais quand vous le comparerez à un moment donné à l'emploi sur nos communes, parce que ça, je veux dire, c'est aussi un facteur qui est important, au fait que s'il y a de l'emploi, il y a des gens qui y restent, que s'il y a des gens qui y restent, on a des gamins dans les écoles et tout un tas d'autres choses, et bien je pense qu'à un moment, l'argent de la collectivité, il faut qu'il soit dépensé. On n'est pas là pour thésauriser. Donc ce sera mon commentaire. Y a-t-il par rapport à cette acquisition, donc des oppositions, je suppose 5, des abstentions pour, donc 18. Je vous remercie. Monsieur Petit.
Donc je ne reprends pas le préambule. Un accord de principe de M. Claude Campagny, propriétaire de la parcelle cadastrée section C, numéro 192, surface cadastrale de 1460 m², quartier des Héritiers, classé actuellement en zone A du PLU, a été réceptionné en mairie à dater du 12 février 2016 pour un montant de 7 300 €. Cette acquisition permettra d'engager des négociations en vue d'un échange de parcelles au dieu-dit et près de la Maille. Vu le Code général des collectivités territoriales, considérant qu'une demande d'évaluation a été présentée au prédomaine de France Domaine en date du 18 avril 2016, vu la délibération numéro 2016-031 du 24 mars 2016 portant approbation du budget primitif de 2016 pour la commune de Bédouin, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'acquisition de la parcelle susmentionnée quartier des Héritiers au prix de 5 euros le mètre carré, soit 7 300 € et d'autoriser M. le maire ou tout adjoint faisant fonction à signer l'acte de vente et toute pièce afférente à cette acquisition, de charger maître Arnoux, notaire à Bédouin, de la rédaction de l'acte.
Je vous remercie. Des remarques particulières?
Oui. Est-ce qu'on a une vision sur l'échange de parcelles auprès de la maire?
Les riverains étant de la parcelle de M. Campagny étant Mme Valerio Adeline et ses héritiers. Et sachant qu'auprès de la Maille, nous échangerons des terrains avec la famille Valerio Montagar.
D'accord. Et par rapport à ça, parce que l'autre fois, on a déjà procédé à ce type de manœuvre, là, où quelque part, on échangeait des parcelles achetées au mètre carré à un prix identique, sauf qu'au final, les parcelles n'étaient pas identiques, donc le prix au mètre carré, forcément, n'était pas le même, le ratio. Est-ce qu'on a une idée là de cette parcelle que l'on va échanger? Est-ce qu'elle est
de toute façon,
à la surface?
Elles sont reprises la mare et nous échangerons mètre pour mètre.
C'est d'accord.
Et si nous achetons plus que ce que la personne nous cède, il y aura une soulte d'accord. Dans un sens ou dans l'autre. on achètera mètre pour mètre.
L'autre fois, ça s'est passé comme ça.
On n'a rien, on n'a pas commencé l'échange. Il y en a eu. Vous serez
si, bien échange.
Non. Ah si, il y a eu un échange. Il y a eu un échange qui n'était pas du tout au même endroit. Qui était le.
Là-bas vers le Lyon.
Mais qui ne concernait pas du tout la zone d'activité, qui concernait ce qui se passe derrière les Florents, c'est-à-dire le chemin d'accès sur lequel nous avions préemption et que nous avons échangé avec Mme Gerbeau contre un terrain que nous avions par ailleurs effectivement au Marida.
Voilà. Les surfaces n'étaient pas identiques.
Non. Voilà. Nous avions évalué le terrain que nous achetons ici contre le terrain qui était au prix là-bas effectivement des domaines.
Au mètre carré près, donc quand même le mètre d'échange. Donc
on aura, si on échange 13 000 mètres carrés, on échangera 13 000 mètres carrés.
D'accord.
S'ils en ont 13 000 10, on payera 10 euros de différence et inversement.
D'accord. Non, c'était simplement pour pas qu'il y ait d'écart par rapport aux autres personnes qui vendent leur terrain à 5 euros du mètre. Simplement. Ok.
Là, c'est quand même 5 euros du mètre. Et ce n'est pas au quartier de la Maille.
Mais ce n'est pas au quartier de la Maille.
Mais j'ai bien compris.
Je vous remercie.
Non, mais j'ai tout bien compris.
Si on veut compenser la personne qui est auprès de la Maille, qui effectivement est le seul agriculteur qui a dans la zone concernée, qui est le seul agriculteur aujourd'hui à effectivement avoir une activité agricole, puisqu'on veut essayer de lui rendre mètre pour mètre, on est obligé de chercher effectivement des terrains, puisque les prix de la Maille n'étant pas extensibles, il faudra bien qu'on le compense en ayant des terrains à l'extérieur de ce quartier-là.
Oui, pour la petite histoire, on est hors PV et hors tapis, ce sera sur l'enregistrement, hors PV et hors journal. Sachez tout de même que les carrières avec lesquelles nous avons des contacts réguliers nous proposaient d'acheter le fond des carrières, c'est-à-dire du terrain creusé, remblayé avec du stérile, au prix de 8 euros du mètre carré.
Donc,
ils ont bien fait de faire la proposition. Ils ont bien fait de faire la proposition. Sachez que c'est quand même compliqué d'acheter du terrain. Bien, on le met au voix. Donc, les oppositions, 5-5. Attention, merci pour cette unanimité relative.
Oui, ouais. De chez vous.
Ouais, de chez nous.
Majorité.
Bien, la cession du droit au bail, chalet du Cocadis, une opération assez classique.
Non. Qui s'en charge ?
Madame Roux, normalement.
Ah, monsieur,
oui, 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 oui.
C'est toi le responsable.
Donc, je me rappelle que les chalets qui sont étudiés au sommet du Mont Ventoux sont régis par un système un peu spécial, c'est-à-dire que le terrain appartient à la commune, il a été donné à bail aux personnes qui ont construit des chalets. Donc chaque fois qu'un chalet est vendu, il faut que la commune approuve la cession du droit au bail. Donc par courrier du 7 avril 2016, maître Surdon, notaire à Monteux, sollicite l'autorisation de la commune de Bédouin en vue de la cession par monsieur Palaillé au profit de la SCI Palaillé du chalet dont il est propriétaire, situé au numéro 39 du lotissement Cocadis, sur la parcelle cadastrée section AB numéro 36 pour 80 centimes. À cette cession vient s'ajouter le transfert du droit au bail accordé initialement à M. Nouveau, qui était le prédécesseur, en date du 20 mai 67 pour 72 années entières et consécutives qui ont commencé à courir le 1er octobre 66 pour se terminer le 30 septembre 2038. Donc, vu le règlement du lotissement, vu le contrat de bail, il est demandé au conseil municipal de donner un avis favorable au projet de vente du chalet installé sur le terrain communal du Cocadis, d'autoriser le notaire en charge du dossier à poursuivre cette vente pour le droit au bail restant à courir, et enfin de donner pouvoir à M. le maire ou tout adjoint faisant fonction pour signer tous les actes à cet effet.
Merci. Donc vous aurez bien compris, en comparant les identités des personnes, que c'est simplement un transfert du même propriétaire à une SCCI. Et concernant le bail, effectivement, on est à ce jour sur le bail initial et nous sommes toujours et nous espérons très rapidement pouvoir mettre un terme à cette harmonisation des baux que nous avions commencé d'ailleurs il y a maintenant plusieurs années, sachant pour la petite histoire qu'il nous reste toujours 4 irréductibles, enfin à minima 2. Et donc je vous proposerai très certainement bientôt d'exclure de cette procédure, parce qu'à un moment donné, la collectivité ne doit pas souffrir des débordements de quelques individus. Donc, je reviens à notre session de droit au bail pour le chalet du Cocadie. S'y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci pour cette unanimité. Nous continuons par le budget annexe camping-piscine. Pierre. Pardon? Non, le point numéro 5, non.
Alors, il s'agit d'une décision modificative sur le budget annexe camping-piscine. En fait, c'est une décision modificative mineure. On se réfère à une délibération prise le 10 novembre 2015 par le conseil municipal qui avait modifié les tarifs, qui avait fixé les nouveaux tarifs pour le camping municipal, qui avait décidé de mettre en place une caution pour la location des habitations légères de loisirs, les trois habitations légères de loisirs qui sont sur le camping, pour lesquelles on est assez légitimement incité à demander une caution de façon à effectivement faire une retenue si jamais il y a des dégradations. Alors, on se pose un petit problème, c'est que un certain nombre de locataires de ces habitations légères de loisirs souhaitent non pas payer des chèques, je pense notamment aux étrangers qui n'ont plus l'usage du chèque pour certains d'entre eux, notamment dans les pays du nord de la France, mais de permettre l'encaissement en espèces. Pour cela, il faut, pour permettre cet encaissement en espèces, avec restitution ensuite de la caution dans la mesure où il n'y a pas de dégradation, il faut inscrire au budget des crédits correspondant au montant de ces cautions versées, qui seront bien sûr remboursées, s'il y a lieu, enfin, normalement remboursé après au départ, au moment du départ. Donc on nous demande d'inscrire dans la section d'investissement, à l'article 165, à la fois en dépenses et en recettes, un montant prévu de 6 000 euros. 6 000 euros étant une estimation du montant de ces cautions que l'on ne connaît pas exactement, mais enfin ça semble largement suffisant. Et c'est une écriture qui s'annule puisqu'elle est équilibrée en dépenses et en recettes.
Très bien. Des questions là-dessus? Facilité pour nos clients qui manipulent des espèces. Donc, des oppositions, des abstentions. Je vous remercie pour cette unanimité. Pierre, vous continuez.
Bon, comme les années antérieures, depuis plusieurs années, la COV verse aux communes, à Bédouin en particulier, mais à toutes les communes de la COV, un certain nombre de fonds de concours. C'est un nouveau terme, enfin c'est un terme qui est apparu il y a quelques années, qui se substitue à ce qui s'appelait auparavant la dotation voirie et la dotation de solidarité communautaire. Bon, ces titres, ces appellations ont disparu et on y substitue le terme de fonds de concours. Le montant attribué pour l'année 2016 par la COV à la commune de Bédouin s'élève à 146 557 euros. La règle du jeu est que nous devons, nous, par délibération, présenter à la COV quels sont les postes auxquels seront affectés, sur lesquels seront utilisés ces crédits. Étant entendu que ce doit être exclusivement des postes concernant l'entretien de terrains, de voies de réseau, de matériel roulant ou de bâtiments. Pas des postes de personnel, par exemple. On ne peut pas l'utiliser pour financer la poste de personnel. Donc, il y a un tableau qui a été préparé, qui prévoit, comme les années antérieures, l'affectation de ces montants sur l'entretien l'entretien des voies et réseaux, sur l'entretien de matériel roulant et sur l'entretien des bâtiments, en particulier le groupe scolaire et le centre culturel et l'hôtel de ville. Enfin, ce n'est pas forcément exclusif. Étant entendu aussi que la part de financement de ces postes-là ne doit pas excéder 50% du montant budgété. Voilà. Donc c'est l'objet de cette délibération qui est strictement la même que celle qui a été prise les années antérieures pour affecter ces 146 557 euros à ces différents postes d'entretien, de matériel, de voies de réseau ou de bâtiment.
Très bien. Procédure habituelle, mais que vous avez retrouvée donc dans le. On en a parlé lors du vote du budget dans le fonctionnement. Y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie.
Pierre, vous continuez.
Si toujours concernant la COV. La COV nous propose, ce n'est pas une obligation, mais c'est une proposition qui nous semble retenir, susceptible de retenir notre attention, de signer un groupe, une convention pour constituer des groupements de commandes entre la commune et la COV. Ce n'est pas une obligation, c'est-à-dire que c'est proposé à toutes les communes qui peuvent ou non décider de signer ce type de convention. Convention de groupement de commandes dans différents domaines qui intéressent les communes. Alors je lis de façon plus précise, vu le Code des marchés publics, notamment son article 8, considérant la volonté de la COV et de ses communes membres de mutualiser une partie de leurs achats, ainsi que l'intérêt pour la collectivité de recourir à des achats groupés pour répondre à ses besoins communs, qui permet d'être plus attractif auprès des fournisseurs, de renforcer en même temps la position de l'acheteur, puisque effectivement ça porte sur des montants plus importants, d'obtenir de meilleurs prix et de mutualiser la procédure de mise en concurrence, ainsi que donner l'échange, de donner l'occasion d'échanger sur les pratiques, les choix et les stratégies d'achat. Donc, je pense que c'est important d'avoir en tête, c'est qu'il s'agit d'une procédure de mutualisation. Ce n'est pas une obligation, c'est un type de service que la COF propose aux communes et qui a pour seul objectif, en fin de compte, d'obtenir de meilleurs prix et de diminuer les coûts, ce qui me semble particulièrement important. Donc le conseil municipal, il a demandé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à conclure des conventions de groupement de commandes et des marchés qui en découleront avec la COV et les communes membres qui le souhaitent dans les domaines suivants. Alors les domaines sont très larges, ça ne veut pas dire qu'on y aura recours systématiquement, hein, mais on pense qu'il est préférable de prévoir une seule délibération permettant de travailler de cette façon-là avec la COV plutôt que d'être obligé de reprendre une délibération à chaque fois. Donc ça peut concerner des prestations intellectuelles, d'études, d'assistance et de formation, des prestations de services, notamment pour l'entretien des bâtiments, l'entretien des réseaux et des voiries, des travaux d'entretien de bâtiments, d'entretien de voiries, d'entretien d'espaces verts, d'entretien de l'éclairage public, éventuellement des fournitures concernant la voirie, le nettoyage, ainsi que des prestations de services relatives à la mécanique automobile, réparation automobile, par exemple, contrôle. Des fournitures également pour l'automobile concernant acquisition de véhicules, d'engins, de carburant, de lubrifiant, des fournitures nécessaires au fonctionnement des services, des fournitures administratives, des produits d'entretien, les vêtements de travail, tout matériel nécessaire au fonctionnement des services, l'alimentation, la cantine, et les prestations de services éventuellement relatives à la communication, ainsi que des prestations de services concernant des services ou des fournitures informatiques, du mobilier urbain, des équipements électroménagers dont on peut avoir besoin, et éventuellement aussi la fourniture d'énergie. Donc, vous voyez, c'est très large. Encore une fois, c'est pas, nous n'abandonnons pas à la COV la gestion de ces commandes, simplement on se sert de leurs compétences et de leurs moyens, qui sont évidemment supérieurs aux nôtres, pour faire poids vis-à-vis de nos fournisseurs éventuels, pour faciliter les procédures, les accélérer et diminuer les coûts. C'est donc l'objet de cette délibération.
Voilà, on est tout à fait dans le sens de la mutualisation qui est prônée et exercée autant que faire se peut. Vous vous souvenez qu'à une époque, on avait acheté, mais c'était très informel, 3 tracteurs avec d'autres communes de l'Interco, et c'est toujours dans le même but.
Juste une remarque, de rester sur ces groupements d'achat, de rester vigilant tant qu'à la qualité des produits qui sont fournis. Parce qu'on a eu l'expérience notamment sur la crèche, hein, où la groupement d'achat et les produits fournis, certes, étaient le mieux disant économiquement, mais pas de bonne qualité. Donc attention quand même à ces questions de groupement d'achat. On veut faire baisser les prix, on se retrouve avec des produits souvent
Il ne s'agit pas nécessairement de commander au prix le plus faible.
Je dis
au meilleur prix.
Ah, oui,
c'est pour une qualité.
C'est écrit.
Simplement pour être intéressant, Patrick, parce que le service d'achat dans les entreprises, ça fait durer que ça existe. C'est typiquement le problème récurrent. Entre la technique, le besoin, la définition que l'on en est, qu'on fait au départ, et le choix fini, les choix finaux, il y a souvent un décalage. Et c'est souvent les utilisateurs qui.
Qui après subissent les conséquences parce que les produits ne sont pas.
De même que.
C'est la problématique. Moi, ça fait 15 ans que je travaille sur ça.
Tu as tout à fait raison. Mais de même que si nous avons un fournisseur qui nous fournit des produits qui ne sont pas conformes à la qualité que nous recherchons, on réagit et on élimine éventuellement le fournisseur. Je pense que les services de la COV sont évidemment appelés à faire le même. Je
suis tout à fait d'accord. Les techniciens, ils leur vont dire, ils finissent.
Oui, c'est tout à fait. C'est ce que je veux dire dans la vigilance à avoir sur ces questions-là.
Oui. Voilà.
C'est vrai que tout service de charge.
Oui, sachant que, aussi, et pour revenir à la spécificité de chacun, ce qui est prévu, c'est que le maire de chacune des communes soit le délégué titulaire, mais qu'il puisse déléguer en fonction des compétences de son conseil municipal et des charges des uns des autres, le fait d'être là, de participer à l'élaboration de cette commande et bien sûr au dépouillement des offres.
Oui, parce que si tu dois aller à tous les.
non, ça va.
Merci.
Bien, pas des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Travaux de sauvegarde de l'église Saint-Pierre de Bédouin. Ça s'appelle Saint-Pierre. Lancement de la consultation pour maîtrise d'œuvre, demande de subvention auprès de la DRAC. Il y a eu une étude diagnostique qui a été confiée au cabinet Lefebvre, qui nous a été restituée et transmise au service de la DRAC pour validation. L'église étant un bâtiment inscrit, vous le savez, la commune bénéficie d'un accompagnement technique et de soutien financier par les services déconcentrés de l'État. Dans un premier temps, il est envisagé d'envisager des travaux de mise hors d'eau, qui sont nécessaires à la sauvegarde et la préservation de ce patrimoine. Des crédits ont d'ailleurs été inscrits au budget primitif 2016 pour engager la maîtrise d'œuvre.
Ça sortait le 9.
Excusez-moi. Ici. Afin d'engager les travaux de mise hors d'eau nécessaires à la sauvegarde, donc on a prévu 1 million d'euros hors taxes. Donc je sollicite de l'Assemblée délibérante l'autorisation de souscrire à une assistance à la maîtrise d'ouvrage auprès de la COV pour la rédaction du cahier des charges, d'engager la procédure de consultation pour la maîtrise d'œuvre de la phase étude à l'avant-projet détaillé, de présenter une demande de financement auprès de la DRAC portant sur 52% du montant prévisionnel et hors taxe des honoraires, soit 50 000 euros. Donc on est bien d'accord, hein, c'est sur les honoraires donc, de la maîtrise d'œuvre, études au programme et avant-projet que je vous demande de m'autoriser à réclamer 50 000 euros qui correspondent donc à la moitié de ce prévisionnel.
C'est un peu cher.
Si, c'est cher. C'est cher. C'est cher pourquoi ? Parce que l'estimatif total est de 6 millions.
Ah ouais. Donc on va faire une
remise en œuvre pour y aller. Tous les images ça tiendra. Non, mais c'est ça, c'est le.
C'est une leçon. Disons, c'est ce que ça coûterait s'il fallait que le bâtiment soit intégralement aux normes, au top, aux normes actuelles. Donc ce qui n'est pas très réaliste.
On va payer des honoraires de maîtrise d'œuvre sur un montant de 6 millions d'euros alors qu'on ne voit que de faire.
Non.
Non,
sinon, ça fait 10% du montant.
Non. Comment
non.
D'abord, pour l'instant, il est question d'autoriser le maire à souscrire une assistance à la maîtrise d'ouvrage. Ça ne veut pas dire délégation à la COV de la maîtrise d'ouvrage. Ça veut dire une assistance à la maîtrise d'ouvrage pour préparer le cahier des charges. Ce sont deux choses bien distinctes. Il faut que les choses soient claires. La maîtrise d'ouvrage, elle reste aujourd'hui maîtrise d'ouvrage de la commune. Rien n'empêche de la commune de demander à la COV, qui a un service qui est un service spécialisé dans ce type d'intervention, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de nous aider à rédiger un cahier des charges. C'est ça dont il s'agit pour l'instant. Alors, par ailleurs, on a intérêt effectivement à demander le plus rapidement possible, sans attendre, puisque aujourd'hui, le cahier des charges, il n'est pas fait. Hein, donc on ne sait pas exactement, on ne peut pas justifier du montant, du détail des travaux. On connaît ce qui a été défini dans l'étude préalable faite par l'architecte des bâtiments historiques, des bâtiments de France, mais ça, c'est pas une étude technique. Hein. C'est pas une étude détaillée technique. Ça ne nous permet pas de consulter aujourd'hui les entreprises en disant il faut faire ceci, c'est cela. C'est vraiment des chapitres généraux. Donc on a intérêt à demander le plus vite possible, dans le courant de l'année, à la DRAC, en l'occurrence, cette subvention pour cette étape. Parce que si on ne le fait pas maintenant, si on attend d'avoir rédigé le cahier des charges, etc., on n'aura plus les crédits en 2016. On ne les aura pas avant 2017. Aujourd'hui, effectivement, la DRAC est susceptible de nous financer à 50% le montant prévisionnel estimé, c'est un montant estimé, hein, des honoraires de la maîtrise d'œuvre. De la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, dont le contenu n'est pas défini, c'est une estimation. C'est une estimation, et le chiffre des 50 000, c'est effectivement une extrapolation d'un pourcentage sur 1 million de travaux hors taxes. C'est tout, hein.
Oui, en fait,
il faut que ça soit clair là-dessus.
Au niveau du plan pluriannuel, annuel, il n'y a rien de défini sur les travaux qu'on va faire, hormis le budget qui a été voté cette année.
Le budget qui a été voté cette année pour 200 000... 200 000. C'est 200
000, 200 000.
Pour 200 000 bureaux, ça c'est... En fin de compte, c'est le lancement, c'est vraiment le lancement de l'opération. C'est d'abord là-dessus qu'on financera toutes les prestations intellectuelles de définition des dossiers techniques, etc., consultation des entreprises.
Par rapport à ça, à un certain moment, j'avais évoqué, il y avait l'histoire de la sauvegarde des Martinets. Ça devait être pris en compte.
Alors, le plan de sauvegarde des Martinets, bon, on a reçu une lettre à ce sujet, auquel on a répondu. Aujourd'hui, le plan de sauvegarde matinée, on sait très bien qu'effectivement, il y a un problème.
Ça sera pris en compte.
Non, mais attends, ce n'est pas pris en compte dans la mesure où il n'y a pas de définition technique précise à ce stade-là. Oui. Ça sera l'objet du maître d'œuvre, donc de l'architecte, quand il sera choisi. Et dans le cahier des charges, il faudra inclure cet aspect-là.
Voilà. Hein, oui, tout à fait. La solution à mettre en œuvre, on ne la connaît pas, on ne l'impose pas.
Voilà.
Par contre, on attire l'attention sur le besoin d'intégrer tout ça.
Elle sera précisée, à formaliser entre le maître d'œuvre, lorsque celui-ci sera choisi, et l'association de sauvegarde des Martinets.
Sur demande de...
Oui, tout à fait. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire... on va le...
Simplement, c'est pas qu'on nous dit.
C'est ce qui avait été fait la dernière fois, je me souviens plus, mais ça avait coûté 3 000 euros.
Oui, ça avait coûté quelques milliers d'euros. Hein, c'est pas...
Je me souviens, quoi.
C'est tout.
Effectivement, il faut prévoir en temps voulu.
Oui. Okay. Donc, pour cette demande de subvention à la DRAC, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie pour cette unanimité. Je reviens effectivement au point numéro 9 dont je vous ai parlé oralement. On a approuvé le principe d'un groupement de commandes avec la COV dans divers domaines. Je ne les répéterai pas. Il nous a été demandé donc d'élire... le maire, veuillez m'en excuser, membre titulaire de la commission d'appel d'offres en tant que représentant titulaire dans tous ces domaines, sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il est prévu, convenu et organisé aussi, ainsi que les conseillers municipaux ou adjoints plus à même qui suivent les domaines particuliers pourront être délégués. Mais en attendant, il faut un nom, et donc le nom du maire. Alors, y a-t-il des oppositions pour m'élire à ces commissions auxquelles je ne participerai certainement pas, puisque vous êtes tous beaucoup plus qualifiés que moi dans mon domaine. Donc,
D'ailleurs, à ce sujet, moi, je précise que si un certain moment a besoin de mes compétences dans certains domaines, je suis prêt à collaborer et travailler avec les élus référents.
Voilà. Je vous en remercie et j'en prends acte. Donc, pour mon élection. En tant que délégué titulaire, des oppositions, des abstentions, merci. Je vous remercie pour cette unanimité. Mais toujours dans les demandes, travaux urgents aux écoles, toujours dans les demandes de subventions, le conseil départemental, au travers de son fonds départemental d'éclatement de la TP, participe aux investissements scolaires du premier degré dans les communes rurales de Vaucluse. Les petits travaux urgents peuvent être financés à hauteur de 50% du montant hors taxe, dans la limite d'une dépense subventionnable plafonnée à 22 867,35 €. Considérant la nécessité d'entreprendre des travaux de remplacement des revêtements muraux endommagés dans la classe 3, la salle de motricité et le bureau de direction s'élevant à 12 466,65 € hors taxe, ainsi que la reprise du sol souple autour du toboggan dont la surface d'amortissement a été jugée altérée lors du contrôle périodique annuel, c'est un montant de 2 585 € hors taxe. Considérant que la totalité de cette opération s'élèverait à 15 051,65 €, considérant que pour la sécurité et le confort des personnes et pour la conservation des installations, il est impératif de réaliser ces travaux pendant les vacances scolaires d'été, vu le plan de financement prévisionnel 50% conseil départemental de Vaucluse et 50% commune de Bédouin, soit 7 525,85 € pour chacune des deux parties. Vu le budget primitif donc, qui avait pris en compte ces travaux, je vous demande d'approuver le plan de financement prévisionnel, tel que je viens de vous le présenter, de solliciter auprès du département de Vaucluse une subvention de 7 525,85 € qui correspond à 50% des travaux urgents à entreprendre dans l'école maternelle de Bédouin, et de m'autoriser à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et à engager ces travaux. Donc c'est la suite des rénovations et entretiens des différentes classes. Ça fait plusieurs années qu'on en fait, on en fera encore. Voilà, la seule, disons par rapport à ce qui a été présenté en début d'année au budget primitif, c'est simplement que nous pouvons là essayer de trouver des subventions à hauteur de 50%. Des questions?
Il y avait un plafond à 22 800. C'est un peu dommage de ne pas y être arrivé.
Oui, et après, on a le facteur temps qui risque de nous contre nous.
Non, mais il y avait 7 000, on a récupéré 3 500.
Oui. On m'a demandé à récupérer. D'accord.
C'est dommage. Mmh.
On aurait pu espérer 11 000. Il aurait fallu qu'on les mette
11 433.
Ouais, en fait, c'est pas 7 000 de travaux, on peut être 3 500. Après, si on les a pas, on adapte aussi.
Voilà, c'est aussi des risques de ne pas les avoir.
Il ne faut pas non plus faire des travaux, inventer des travaux s'ils ne sont pas nécessaires.
C'est encore pire. C'est pour les faire à la rame. Des choses subventionnées à 50%, mais si tu viens de travailler chez moi et que je te paye avec un mitag,
on est d'accord.
Après, il y a un pire sur les écoles.
D'autant plus que je pense qu'on trouvera toujours.
Oui,
je le soumets au vote, l'équipe des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Ensuite, nous passons au point numéro 12, bibliothèque municipale.
Alors, dans le cadre de la bibliothèque municipale, c'est un financement qui est au titre de la dotation globale pour le développement de services numériques innovants. C'est un appel à projet 2016. Monsieur le maire fait part à l'Assemblée qu'au titre de l'équipement numérique des bibliothèques, la DRAC PACA lance un appel à projet pour le financement d'équipements et de services numériques des bibliothèques de la région. Dans ce cadre, la commune va effectuer une demande de subvention pour l'acquisition de ressources numériques à hauteur de 560 euros, représentant 80% du montant hors taxe de la dépense. Dépenses, livres et presse numériques adultes et jeunesse, 510 euros. Application adulte, 70. Application jeunesse, 70. Livre audio en téléchargement, 50. Nous arrivons à 700 euros. Recette, l'autofinancement, toujours hors taxe, 140. Subvention de la DRAC à 80%, à hauteur de 80%, 560. Nous retombons sur 700 euros. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel tel que présenté ci-dessus. De solliciter auprès de la DRAC une subvention de 560 euros correspondant à 80% du montant des acquisitions en ressources numériques. D'autoriser M. le maire ou tout adjoint faisant action à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier et à engager ses travaux.
Question particulière dessus. Je le mets donc au bois. C'est une petite subvention, un petit ruisseau pour les grandes rivières. Donc des oppositions, des abstentions. Je vous remercie. Le pôle JE.
Ah oui, donc on représente le programme d'été de notre club jeune et de ce qu'on appelle la LSH, accueil de loisirs sans hébergement, donc de Bédouin. Donc on propose aux familles pendant les vacances scolaires de 2016, l'été, un programme diversifié d'activités. Certaines de ces activités, effectivement, on demande une participation des familles. Hein. Donc, il est proposé au conseil municipal de valider le financement selon les modalités que vous avez tous dans un tableau, que je n'ai pas détaillé, mais enfin, en gros, nous avons différencié les familles et donc le tarif qu'on leur applique suivant deux tranches de coefficients familiales. Alors qu'auparavant, on en avait trois sur Bédouin. Là, on a décidé cette année de ne regrouper que sur deux coefficients familiaux. On a aussi fait une distinction entre les enfants qui sont issus, qui résident à Bédouin, et les enfants qui fréquentent notre club jeune comme notre ALSH et qui résident hors commune. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on a quand même des enfants qui viennent de Montmaron, de Flassan, de Saint-Pierre, etc. Voilà, parce que ce que vous avez sur les yeux, donc ce sont en fait des tarifs qui ont été modulés suivant les critères que je viens de vous expliquer. Vous avez également le nombre de places prévues par enfant et les tranches d'âge. Au total, donc, on vous demande de valider ces séjours. Vous verrez que, donc, en première partie, vous avez plutôt le club jeune. Et en deuxième, tout en fait en bas du tableau, vous avez les sorties et séjours prévus par le centre de loisirs qui, en général, accueille des enfants beaucoup plus jeunes. Hein. Vous avez les tranches d'âge de 8 à 12 ans ou de 3 à 5 ans. Donc pour la LSH, ce qu'on appelle le centre de loisirs, c'est en fait deux séjours, un séjour en Martigues et une nuitée au camping de Bédouin. Et ce que vous avez dans le haut du tableau, c'est le club jeune avec plusieurs propositions d'activités qui touchent les tranches d'âge que vous avez sous les yeux entre 12 et 17 ans. Donc vous voyez aussi également la fréquentation attendue et prévue par les organisateurs. Voilà, donc je vous passe sur les sommes, vous avez tous les yeux. Si vous avez besoin de plus d'explications, je peux vous les donner. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver les tarifs et les modalités de financement des activités organisées pendant les vacances scolaires d'été par les services municipaux du pôle enfance-jeunesse et de dire que ces recettes sont encaissées par la régie de recettes enfance-jeunesse-éducation.
Béatrice.
Est-ce qu'il y a des questions ?
Oui. Quand c'est hors commune, je suppose que c'est à coût réel, quoi.
Absolument, hein. Voilà.
Comment se fait-il, en fait, que sur la partie séjour LSH, hors commune, il y a deux tarifications ?
Et parce qu'on a tenu compte des coefficients familiaux des familles.
Donc, ça veut dire...
appliqué quand même les mêmes règles, pas faire de discrimination. D'accord. Les familles moins aisées paieront un peu moins, les familles plus aisées paieront plus.
Ça, j'ai compris. Voilà. Ça veut dire que quelque part, le coût réel est de 255, par exemple, ou 14. Et que quelque part, on participe à un hors commune au QF1 et QF2.
Oui.
Alors qu'on ne le fait pas sur les parties du haut.
Sur les
Sur les quatre premiers, là, sur les sorties accueil jeune.
entre les sorties.
Oui, mais c'est comme ça, on a décidé comme ça cette année. C'est un peu nouveau en fait, on a commencé à remettre un peu.
Non, mais c'est quelque chose qui te gêne ?
Oui, voilà.
Mais la cohérence, c'est
la cohérence, tout simplement.
Ou on fait un choix et puis on est cohérent, ou on est moitié-moitié.
On va un peu à tâtons aussi, on commence à mettre en place quelque chose pour voir si les familles aussi peuvent.
Et priorité, donner bien entendu aux enfants de Médoc.
Tout à fait, oui. C'est l'objectif de ces tarifs.
Voilà.
Ça existait déjà.
Et tu souhaiterais une cohérence aussi sur les tarifs
communes. Je me posais la question, s'il y avait une raison que je n'avais pas captée par rapport à ça, quoi.
Qu'on applique un tarif aussi, alors, à ce moment-là, au QR.
Peu importe, mais voilà, c'était la cohérence. Ouais. Pour ça, je me suis dit, peut-être qu'il y a une raison technique ou financière. Ça veut dire que...
C'est une pratique qui se faisait sur le centre de loisirs, qui ne se faisait pas sur le club jeune. Hein. On a maintenu ces tarifs-là sur le centre de loisirs, parce que ça se faisait déjà avant.
Oui.
On n'a pas voulu complètement modifier,
si tu veux,
ce qui se pratiquait. Alors que sur le club jeune, ces tarifs-là existent déjà. Il n'y avait pas de tarification... OQF pour les hors communes sur le club jeune. Voilà la raison essentielle. Mais c'est une idée à retenir.
Ben oui, c'est à travailler.
On travaillera.
À travailler.
Pour avoir cette cohérence.
Ok, merci.
Oui, je pense qu'il y a quand même, il n'y a pas eu des charges de personnel. Je vois qu'ils ne sont pas élus. Des petits détails dans ce genre. Mmh.
C'est des coûts bruts de séjour, hébergement, etc.
Oui, il n'y a pas la charge personnelle. Ça sert aussi à compléter par rapport au fait que si le séjour n'est pas complet avec les enfants de Médoc,
voilà.
Quelque part de retrouver financièrement les frais fixes
engendrés. Tout à fait.
Sachant que oui, nous on fait toujours de la pré-réservation, on est toujours sur le
séjour. Le séjour Martigues est déjà comblé.
Oui, c'est ça qu'il faut voir.
Voilà. Il est déjà, les trois jours où a été lancée les inscriptions, il est déjà pratiquement complet.
C'est bien.
Très bien. Par rapport à ça, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Élection personnelle communale au sein du CNAS.
Oui. Action sociale. Alors, monsieur le maire rappelle que par délibération numéro 2016-05 du 2 février 2016, le conseil municipal a décidé d'attribuer une subvention au comité des œuvres sociales du personnel de la mairie des Bédouins, permettant à ce dernier d'adhérer au CNAS. Association loi 1901, le CNAS a un double objectif, renforcer les liens de solidarité, offrir aux agents une réponse à leurs attentes, tout en favorisant le pouvoir d'achat ainsi que l'épanouissement personnel et familial. Pour mémoire, le montant de la cotisation 2016 s'élève à 197,28 € par agent actif. Considérant les articles 70 et 71 de la loi 2007-209 du 19 février 2007, relative à la fonction publique territoriale, selon lesquelles il revient à l'Assemblée délibérante de déterminer le type des actions sociales et le montant des dépenses obligatoires qu'elle entend engager pour la réalisation des prestations prévues dans la loi numéro 83-634 du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires, vu l'adhésion du COS de la mairie de Bédouin au CNAS, considérant l'article 24-1-1 règlement intérieur du CNAS portant sur la désignation d'un délégué local parmi les élus du conseil municipal pour la durée restante du mandat, il est demandé au conseil municipal, premièrement, d'approuver l'adhésion au CNAS pour le personnel communal au travers du comité des œuvres sociales, pour laquelle la commune contribue pour l'exercice 2016 à hauteur de 180 € pour chacun des adhérents actifs, et deuxièmement, d'accepter la candidature de M. Jean-Marc Petit, adjoint au maire, délégué à l'urbanisme et au personnel communal, en tant que délégué au CNAS.
Très bien. Des questions là-dessus ? Je le soumets aux voix. Des oppositions, des abstentions. Merci pour cette unanimité. M. Petit, vous félicite. Cette nouvelle charge.
Une question, en fait, Jean-Marc, à la délégation aussi au niveau du personnel communal.
Oui.
D'accord, oui. J'avais dû appeler quelque chose. Hein.
C'est moi qui ai présenté le rappel, le règlement.
Oui, mais je n'avais pas
pas forcément.
Et dans les attributions de départ, ça y était, vous les avez, non?
Ah, voilà.
Non, c'est quand on a décidé de faire un règlement et de... voilà.
Donc, est-ce qu'on avait voté au Conseil?
On le vote pas. C'est des délégations. C'est une délégation. Mais c'est pour voilà, ça
mais
que...
Par contre, non, mais tu arrêtes de penser, je sais pas.
Non, mais ça n'avait pas été dit clairement, donc c'est pour ça que je ne vais pas faire un penchement. OK.
Très bien. Tableau des effectifs pour les emplois permanents. Nous avions voté le 4 avril 2016 de bien vouloir supprimer le poste de rédacteur principal de première classe et de créer un poste d'animateur territorial principal de deuxième classe, donc pour le service enfance-jeunesse. Donc, vu les différents codes, etc., etc., vu le budget de la commune, vu le tableau théorique des effectifs, je vous demande d'approuver la création d'un poste d'animateur principal de deuxième classe à temps complet, de supprimer le poste de rédacteur principal du tableau théorique des effectifs et de dire que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du budget primitif 2016. Donc, dans langage plus clair, nous avions envisagé à un moment donné pour le service enfance jeunesse de recruter donc un rédacteur principal. Donc les choses étaient pratiquement faites, la candidature, l'appel à la candidature avait été lancé, des entretiens nombreux avaient eu lieu, et en dernière minute, la personne qui devait nous rejoindre a préféré rester dans le poste où elle était précédemment. Et donc le deuxième candidat n'était pas à un niveau hiérarchique aussi élevé que le premier. Ce qui fait donc qu'on vous demande de supprimer le premier pour lequel les choses semblaient faites et donc de créer le poste du second. Voilà, on est toujours quand même sur la création d'un seul poste, mais à qualification, à hiérarchie moindrement. Voilà.
Ça veut dire qu'en fait, on définit quelque part le poste en fonction des profils que l'on a choisi.
Ah non, c'est l'inverse.
Non, c'est l'inverse. C'est que nous avions voté pour un poste de responsable du service qui, théoriquement, devait être occupé par une personne ayant le grade de rédacteur.
Oui.
Voilà. Donc, l'appel a été lancé, le besoin
était... C'est ça.
Il était d'un rédacteur.
Il s'est désisté. Enfin, il a pas...
Voilà. Donc, ça a été lancé, des candidatures ont été déposées, ont été examinées.
C'est pas compris. Oui. En fait... Quand on définit un poste, on définit un besoin, on a besoin de quelque chose, on définit un profil.
Mais on définit pas son
grade dans la hiérarchie.
Le profil de après, c'est le recrutement, en fait, qui fait que...
Si tu prends quelqu'un qui est plutôt en fin de carrière, comme la personne qui avait souhaité venir, donc elle a un grade dans la fonction publique qui est plus élevé, donc tu crées un poste pour ce niveau-là, à partir du moment où c'est désisté et qu'on avait un deuxième choix... On crée le poste, vu qu'il est plus jeune, il est moins haut dans la grille indiciaire, donc on crée le poste pour pouvoir le payer au grade auquel il est aujourd'hui.
Ce sont les mêmes compétences.
Voilà. Mais les compétences, c'était deux personnes qui travaillaient. Une était plus en avance de carrière que l'autre.
C'est pas le même.
C'est un peu comme si j'ai les profs entre ceux qui commencent et ceux qui...
Mais effectivement... Moi, j'ai fait un rapprochement.
Mais ce n'est pas sur, la nature même de ce qu'on voulait. C'est bon, là,
très bien. Donc, je le soumets au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, modification du tableau des effectifs, mais là, on est dans les emplois non permanents, dans les emplois, on va dire, d'été. Alors, vu différents articles et lois du Code général des collectivités territoriales, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'agents non titulaires pour faire face à un accroissement saisonnier d'activité, pour le budget annexe camping, piscine, tennis, donc je vous propose de recruter en tant que maître nageur étapes non titulaire, temps complet, deux postes, surveillant de baignade ayant grade d'opérateur des APS non titulaire à temps complet, deux postes, et puisque vous savez qu'on a la possibilité de faire fonctionner là aussi différents grades en même temps. Agent d'accueil à la piscine, caisse et vestiaire au grade d'adjoint administratif de deuxième classe non titulaire à temps non complet, 10 postes. J'attire votre attention sur le fait déjà que l'an dernier nous en avions 11 et qu'à une époque nous avions la possibilité de ne créer que 2 ou 3 postes sur lesquels se succédaient les personnes.
souvent des jeunes de Bédouin qu'on employait pour des périodes de 15 jours. Donc dorénavant, il nous faut établir un contrat à chacun. Mais globalement, le fonctionnement sera le même. Hein, donc qu'il soit clair qu'on ne pourra pas fonctionner 10 en même temps. Donc un agent technique polyvalent camping au grade d'adjoint technique de deuxième classe à temps complet, donc un poste. Et un agent d'entretien camping-piscine au grade d'adjoint technique de deuxième classe à temps complet, un poste. Donc ça, c'est pour la piscine-tennis. Au budget principal, agent d'accueil tourisme, grade d'adjoint administratif de deuxième classe à temps complet, un poste. Donc on est toujours dans les accroissements saisonniers d'activité, c'est un poste là aussi qui a été créé les autres années. Et par rapport à la nécessité de recourir à des agents temporaires pour faire face là aussi à un accroissement temporaire d'activité et payer sur le budget principal et non pas la piscine comme ce que je viens de vous énoncer, un agent technique polyvalent pour le service technique qui est le renfort pour les festivités, qui a un grade d'adjoint technique de deuxième classe non titulaire à temps complet, un poste, et un ASVP, police municipale, au grade d'adjoint technique de deuxième classe, non titulaire, à temps complet, un poste. Donc je vous précise que ces postes pourront être pourvus sous la forme de contrats aidés, ces besoins ayant été exprimés et validés par délibération 2016-055 du 4 avril 2016. Nous avons donc vu le budget de la commune, vu le tableau théorique des effectifs, compte tenu de cet exposé, je vous propose d'approuver la création des postes tels que mentionnés ci-dessus et de dire que les crédits sont inscrits au chapitre 012 du BP de la commune et du budget annexe camping, piscine, tennis. Donc en fait, c'est un petit peu la... Le recrutement annuel. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus de particulier? C'est que nous, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, nous recrutons un ASVP supplémentaire, c'est-à-dire un adjoint aux agents de sécurisation sur la voie publique, donc ce qui nous fera théoriquement passer l'effectif de 3 gardiens garde champêtre et donc 2 ASVP, on tournera cet été avec 5 personnes. Je pense que le Tour de France méritera ce renfort. Et est-ce que ce sera suffisant? C'est encore une question à se poser. Le sachant aussi que pour le moment, nous avons un poste d'ASVP placier qui n'est pas pourvu. Et nous sommes en recrutement. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a des questions là-dessus?
Globalement, sur le budget annexe camping-piscine, on est à des engagements identiques à l'année dernière, Colette ?
Oui. Après.
Et qu'est-ce qui est prévu au niveau des ouvertures, à savoir quelle période la piscine cette année ?
18 juin, la piscine, 31 août.
D'accord.
Les horaires sont similaires, 10 heures. On a varié, hein, comme l'année dernière. Une partie 10 heures, 18 heures, ou 11 heures, 18 heures en juin. Après 10 heures, 18 heures, et on n'a pas étendu l'ouverture jusqu'à 20 heures cette année.
Ouais. Donc ça doit limiter un peu les coûts, ça. Ouais.
Parce que les retours que l'on a eus, c'est que de 19 à 20 heures,
personne.
Bien, je le mets au moins, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Tirage au sort des jurés d'assises. Alors, vu le code pénal, les articles 254 et suivants. La loi du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises. Vu l'arrêté préfectoral du 26 avril 2016 portant à 2 le nombre de jurés d'assises pour la commune de Bédouin, considérant qu'il convient de procéder au tirage au sort sur les listes électorales de la liste préparatoire, considérant qu'en vue de dresser la liste préparatoire, le maire tire au sort publiquement, à partir de la liste électorale, un nombre de noms triple à celui fixé par l'arrêté préfectoral, Et considérant que ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas atteint l'âge de 23 ans au cours de l'année civile qui suit, donc il demandait au conseil municipal de procéder au tirage, de m'autoriser du moins de procéder au tirage au sort de la liste préparatoire des jurés d'assises pour l'année 2017, opération qui se fera de façon publique. Et donc, les synodes seront transmis ensuite, de plus de 26 ans. Nous le faisons tout de suite, hein, madame Gestel. Oui. Qui sont les heureux élus?
Alexandre Martillon, Christian Bounic, Jocelyne Dufour, Lucien Bressy, Barthélémy et Sabine Solerine.
Très bien, très bien. Merci. Donc, c'est une, hein, c'est une sélection aléatoire dans les listes électorales.
Oui, voilà.
Eh bien, on communiquera cette nouvelle aux personnes concernées. Mais au-delà de l'aspect plaisant de ce tirage au sort, je tiens quand même à rappeler que ça fait partie des devoirs du citoyen. Et à un moment donné, que de participer à la justice de son pays. Alors bien sûr, je sais que c'est parfois contraignant, mais c'est une obligation et l'on ne peut s'en dispenser que sous des conditions extrêmement précises. Et là aussi, on pourrait débattre longtemps, ça fait partie de nos obligations et les citoyens se doivent de s'impliquer dans la vie publique et le fonctionnement des administrations et des différents systèmes qui les régissent. Bien, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a dans les jours à venir un certain nombre d'inaugurations, de mises en service. Le local du Chalet Rénard, qui accueille les conteneurs urbains ménagères, qui se fera samedi 28 à 11h. Nous avons aussi
l'inauguration de la nouvelle
aire
de
camping-car. À 11h sur place. Elle fonctionne d'ailleurs très bien,
madame. Oui,
l'aire de camping-car.
Bah, oui, apparemment, les résultats sont au-delà de nos espérances. Puisque, pour vous donner un chiffre, pendant à l'ouverture mi-mars jusqu'à fin mars, on a encaissé 2 600 €, et que là, en avril, on va encaisser 3 000 €. Si on cumule, ça fait déjà beaucoup plus que la recette que nous avons fait l'année dernière.
Sur la totalité de l'année.
Oui.
Sur la totalité de
l'année. 3 000, c'est la part nous revenant ou la
part? C'est la part nous revenant. Ah, oui, évidemment. Sinon, je t'aurais dit.
Je pose la question, c'est toi qui en as un seul chiffre, c'est pas moi. Hein.
C'est pas de j'ai dit, nous allons encaisser.
Ah. C'est vrai. Et on a donc combien de différentiels avec la société?
70%.
Et nous aurons aussi une autre inauguration, c'est l'inauguration des remparts.
Le 28 juin.
Enfin, terminé. Très bien.
Et ce samedi, on a le tournoi de foot avec le club de foot, bien sûr, et l'association des commerçants. Ils seront dessus toute la journée. On peut manger, boire, travailler, assister à tous les matchs. Et monsieur le maire, la remise des prix à la fin de la journée.
J'espère
que
ça va durer.
Oui. Mesdames, messieurs, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne soirée. Les 20h20, nous terminons les débats. Oui.